Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'Observatoire international des prisons dénonce les violences commises sur les détenus par des surveillants et le règne de l'omerta. Réponse de l'administration pénitentiaire, les violences entre détenus et contre les personnels sont beaucoup plus fréquentes. Le plan social de General Electric doit être amélioré, déclare Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie s'est rendu à Belfort pour apporter son soutien aux salariés. Raphaël Ebenstein est sur place pour France Culture. À Khartoum, les forces soudanaises ont violemment dispersé les manifestants qui campaient depuis des semaines devant le commandement général de l'armée. Il y aurait au moins 13 morts. Et puis, accueil royal pour Donald Trump à Londres. Le président américain est en visite d'État pour 3 jours au Royaume-Uni. Récit de cette première journée avec Antoine Gignot. L'Observatoire international des prisons veut lever le voile sur ce qui est, selon lui, une véritable omerta. L'OIP publie un rapport sur les violences des surveillants pénitentiaires contre les détenus. Ce rapport résulte d'un an d'enquête, ce qui a permis de répertorier plus de 200 signalements dans des prisons de toute la France. Bonsoir Manon Derdevet.
Bonsoir.
Selon l'OIP, ces détenus subissent une double peine.
Des coups de pied ou de poing au parloir, en promenade ou en cellule. Samuel, 35 ans, dit en avoir reçu beaucoup au cours de ses 6 ans de détention dans une dizaine de prisons différentes, des violences qui restent gravées dans sa mémoire.
On m'a écrasé à plat ventre sur un matelas, les genoux dans le dos, on m'a déshabillé de force, on m'a emmené dans la cour de promenade pour pouvoir me battre en fait. On m'a tenu les pieds, les jambes, et donc ils étaient à 3 sur moi et ils m'ont mis des coups de façon répétitive quoi, sur le gauche.
Aucune donnée officielle ne permet de recenser le nombre d'agressions comme celle-ci, mais en 2018, l'OIP dit avoir été saisi plusieurs fois par semaine pour des faits mettant en cause des surveillants. Pour Cécile Marcel, la directrice de l'Observatoire international des prisons, le silence demeure car ces violences sont invisibles.
Les passages à tabac, les bras tordus, le propre de ces violences, et ça contribue aussi à l'omerta, c'est qu'elles sont commises à l'abri des regards. Alors déjà derrière les murs des prisons, c'est à l'abri des regards de la société, mais aussi à l'abri des regards dans la prison. Le plus souvent, quand c'est des violences qui sont préméditées, les surveillants vont choisir des endroits où il n'y a pas de caméra de surveillance, donc ça va être dans les cellules ou dans les angles morts des caméras, et puis effectivement dans les endroits où il n'y a pas de témoins.
Selon les syndicats, ces accusations sont fausses et si des faits de ce genre ont pu avoir lieu, ils sont beaucoup moins fréquents que les agressions commises sur les surveillants. Jean-François Forger est le secrétaire général de l'UFAPUNSA, le premier syndicat chez les surveillants pénitentiaires.
Quand il y a des violences à l'égard des détenus, elles sont systématiquement dénoncées. D'une part, quand un détenu est violenté, donc victime, il a toute la capacité loisir d'être accompagné dans un dépôt de plainte. Et à chaque fois qu'il y a des faits avérés de violence sur détenus, ils sont quand même rares, mais quand il y en a, ils sont sanctionnés.
Des sanctions trop rares, dénonce l'OIP. Selon l'organisation, la majorité des plaintes des détenus sont classées sans suite et il n'y a eu qu'une dizaine de sanctions disciplinaires au cours de ces 2 dernières années.
Et l'OIP formule plusieurs recommandations, dont une enquête de victimisation pour mesurer les violences contre les détenus dans les prisons ou encore un meilleur traitement des plaintes des détenus. La commission chargée d'enquêter sur les abus sexuels dans l'Église lance un appel à témoins inédit pour faire la lumière sur les agressions sexuelles ou les viols commis par des clercs ou des religieux. Cette commission, lancée par la Conférence des évêques et présidée par Jean-Marc Sauvé, met à disposition des victimes un numéro de téléphone, une adresse mail et une boîte postale. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Ce recueil de témoignages doit durer 1 an, mais cette initiative suscite chez les victimes un certain scepticisme.
Effectivement, comment garantir l'indépendance d'une commission voulue par l'Épiscopat? Par une structure autonome, répondent les créateurs de la SIAZ. C'est le nom de cette commission. Elle est présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État. Il a fait appel à 22 membres, composés de juristes, de médecins, d'historiens, de sociologues ou encore de théologiens. Mais pas de représentants d'associations de victimes, ce qui constitue une erreur, selon François Deveau, président de la Parole libérée.
Je trouve que l'absence de victimes au sein de cette commission n'est pas légitime. Si cette commission existe, c'est quand même grâce à ces victimes qui ont fait accepter la réalité de cette omerta qui a été soigneusement dissimulée par le clergé et qu'il a fallu à ces victimes justement une grande hauteur de vue et une grande clairvoyance et une grande justesse de ton pour faire prendre conscience de la réalité de ce fléau face à une institution qui se dit quand même garante de la morale et qui a mis beaucoup de détermination pour décrédibiliser les victimes et jouer une stratégie de l'édredon. Donc je ne comprends pas bien pourquoi se priver de cette clairvoyance et de cette hauteur de vue dont les victimes ont quasiment systématiquement fait preuve, contrairement à l'institution catholique elle-même.
Néanmoins, les représentants d'associations de victimes estiment que cette initiative va dans le bon sens. L'objectif, c'est d'entendre des victimes, briser le silence, puis de mesurer l'ampleur des abus et des traumatismes. Cette commission a pris pour modèle une initiative australienne. En 3 ans, le dispositif là-bas a reçu 40 000 réponses sur une population de 25 millions d'habitants.
Le magazine Télérama a licencié 2 journalistes accusés d'agissements sexistes et de harcèlement sexuel par plusieurs salariés. Dans le sillage de l'affaire Weinstein, le groupe Le Monde avait pris des mesures pour combattre les pratiques sexistes et autres actes de harcèlement dans ses différentes rédactions. Et dans le cadre d'une cellule d'écoute, des salariés de Télérama ont effectué ces signalements visant 2 journalistes piliers du magazine. Aurélien Fenrenzi et Emmanuel Tellier contestent catégoriquement ces accusations et disent vouloir saisir la justice. Bruno Le Maire demande à General Electric de revoir sa copie. Le ministre de l'économie a fait le déplacement à Belfort cet après-midi pour dire son soutien aux salariés après l'annonce d'un vaste plan social. General Electric prévoit en effet la suppression de plus d'un millier de postes en France, dont près de 800 dans l'entité belfortaine. Bruno Le Maire est donc venu parler de l'avenir industriel du site avec des représentants des salariés et les élus locaux. Raphaël Ebenstein, vous suivez le ministre qui a été accueilli sous les huées à Belfort.
Comité d'accueil un peu musclé et chahuteur pour Bruno Le Maire à son arrivée peu avant 16h sur le site de General Electric Belfort. Environ 500 personnes, des salariés bien sûr, mais aussi de simples habitants, même quelques gilets jaunes venus dénoncer le projet de plan de suppression d'environ 1050 postes à Belfort. 1050, c'est trop, dit Bruno Le Maire, le plan social ne va pas, G doit revoir sa copie. Des propos empreints donc d'une certaine fermeté. Il a brièvement rencontré 3 dirigeants de l'entreprise, dont le patron de la branche énergie pour l'Europe. Ça contraste avec la longue réunion de travail qui a suivi entre le ministre de l'économie et les représentants syndicaux. Pour Bruno Le Maire, c'était important de venir à leur rencontre, d'écouter leurs propositions, notamment en matière de diversification. L'État devrait se mobiliser justement pour les aider à s'orienter vers l'aéronautique ou la filière hydrogène.
Raphaël Ebenstein à Belfort et Bruno Le Maire indiquent qu'il a décidé la mise en place d'un comité de suivi du plan social proposé par General Electric. L'Île-de-France est le territoire le plus inégalitaire de l'Hexagone. C'est ce que met en évidence une enquête de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Parmi les 12 millions d'habitants de la région, les cadres et ménages aisés sont surreprésentés, mais le taux de pauvreté est au-dessus de la moyenne française. Et l'étude met en évidence le creusement des inégalités sociales entre départements, communes et quartier, Annabelle Grelier.
Oui, d'un côté Paris et les Hauts-de-Seine qui continuent de s'embourgeoiser, de l'autre la Seine-Saint-Denis qui continue de s'appauvrir. Autant dire que la mixité sociale en prend un coup. Et selon cette étude, c'est d'ailleurs l'entre-soi des riches qui n'a fait que s'accélérer ces 10 dernières années. Un phénomène tout simplement corrélé au prix de l'immobilier qui en 20 ans a été multiplié par 3 dans les quartiers les plus prisés. À 11 000 euros le mètre carré, on comprend vite qu'on ne s'adresse pas à monsieur tout le monde. Le prix de l'immobilier explose et les salaires pour la plupart stagnent, alors les classes moyennes ont dû partir s'installer dans les quartiers dits populaires. C'est le phénomène bien connu de la gentrification que l'on peut particulièrement observer dans le quart nord-ouest de Paris, comme le 18e arrondissement, 19e et 20e, et dans certaines communes limitrophes, Colombes, Malakoff, Les Lilas, Arcueil, Fontenay-sous-Bois et même Saint-Ouen et Clichy. Du côté des communes pauvres, eh bien le phénomène là aussi s'accélère, les pauvres sont toujours plus pauvres, ces communes cumulent un gros parc HLM et des logements anciens dégradés. Mais le plus alarmant dans cette étude, c'est le phénomène de paupérisation grandissant qui cette fois est corrélé au chômage et à l'emploi précaire. Ce sont des communes où s'installent d'ailleurs de plus en plus d'immigrés, comme par exemple Grigny, Villiers-le-Bel ou encore la Courneuve. Enfin, cette étude montre que quelques communes parmi les plus pauvres sont arrivées à tirer leur épingle du jeu, leur recette. Eh bien, elles ont beaucoup construit en développant la propriété, le parc locatif privé. On peut citer Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines ou encore Saint-Ouen et Gennevilliers en Seine-Saint-Denis.
Annabelle Grelier. Qui pourrait incarner et relancer les Républicains? Jean Leonetti assume l'intérim conformément au statut du parti et aucun candidat ne s'est précipité après la démission de Laurent Wauquiez. Plusieurs voix se sont d'ailleurs élevées pour que les Républicains se donnent du temps et Éric Woerth a plaidé pour une dérision collégiale du parti dans un premier temps. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Le parti doit retrouver une tête mais aussi un projet politique clairement défini et dans l'immédiat, la balle est dans le camp de Gérard Larcher.
Oui, le président du Sénat doit réunir demain des élus de la droite et du centre, les présidents de groupes parlementaires, les présidents d'associations d'élus. L'idée, c'est d'essayer de rassembler. Mais au-delà de cette échéance, pas facile d'y voir tout de suite très clair. Dans l'avenir des LR, reconnaît le porte-parole du parti. Voilà ce que répond Gilles Platret quand on lui demande s'il a une idée de l'agenda des jours qui viennent.
Non, la réponse est non. On est encore dans l'expectative. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de chercher, avant de trouver, le moyen de revenir en grâce auprès des Français et de retrouver de la crédibilité.
Prendre le temps de chercher, mais pas trop longtemps quand même, il y a urgence, explique toujours Gilles Platret.
Les municipales arrivent, et indépendamment des municipales, il y a une urgence qui est l'urgence de la France, tout simplement. Nous ne pouvons pas nous contenter de la politique menée par M. Macron, qui est une politique antisociale. Et nous ne tomberons jamais dans l'écueil de faire confiance à Mme Le Pen, qui ne vit que justement en exploitant la misère des gens. Donc nous avons une vocation à redevenir majoritaire. Mais la première des décisions pour envisager cet objectif qui, à 8% aujourd'hui, peut nous paraître lointain, c'est déjà de remettre le parti en fonctionnement. Il s'agit aujourd'hui, sans perdre de temps, parce qu'il y a urgence, de renommer son successeur.
Renommer le successeur de Laurent Wauquiez rapidement en consultant les militants, prône le porte-parole. Selon les statuts du parti, l'élection d'un nouveau chef doit avoir lieu dans les 50 à 65 jours après le départ du patron. Les mêmes statuts qui réclament de publier un guide électoral 90 jours avant le vote. Un petit casse-tête de plus pour les LR.
Rosalie Lafarge. À l'issue des élections européennes, le ciel semble nettement plus dégagé pour les Verts. Ce matin sur France Inter, Yannick Jadot a expliqué qu'il souhaitait créer un parti de gouvernement plus large qu'Europe Écologie Les Verts. Le député écologique européen veut construire, je cite, « le grand mouvement politique de demain, avec tous les mouvements écolos, mais aussi avec des militants venus, je cite encore, de n'importe où, aussi bien de la droite que de la gauche, et expérimentés ou pas ». On attend l'exemplarité de l'État français, explique Maître Basile Adair, vice-bâtonnier du barreau de Paris. Il fait partie des 44 avocats qui publient une tribune sur franceinfo.fr pour dénoncer les condamnations à mort de 11 djihadistes français en Irak. Le président a demandé à ce que leur peine soit commuée en prison à perpétuité. Selon la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, des discussions de haut niveau sont en cours.
La position française consiste systématiquement à demander à ce que les peines soient commuées en prison à perpétuité. C'est l'objet justement des démarches que nous avons actuellement auprès du gouvernement irakien qui, je vous le disais, se tiennent à un haut niveau, ces démarches. Aujourd'hui, la procédure qui a été engagée n'est pas terminée puisqu'il y a des procédures d'appel qui sont encore possibles dans un délai de 30 jours à l'issue du prononcé du jugement. Et donc, nos compatriotes bénéficient évidemment de la protection consulaire. Ils ont toutes les informations disponibles leur permettant de réaliser ces appels. Et donc, ça n'est qu'au moment de l'épuisement des procédures de recours que nous aurons une indication sur ce que sera la suite. Mais je vous le rappelle, la position de la France est absolument constante en la matière et nous réalisons évidemment de nombreuses démarches à l'attention du gouvernement irakien pour que cette peine de mort soit commuée en peine de prison à perpétuité.
Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. C'est la première opération du genre menée par les autorités kurdes. Quelques 800 femmes et enfants syriens ont commencé à quitter le camp de déplacés d'Al-Hol dans le nord-est syrien. Les autorités semi-autonomes kurdes ont aussi annoncé avoir remis 5 orphelins norvégiens à une délégation venue les rapatrier, alors que des milliers d'étrangers affiliés à l'État islamique sont toujours en prison ou entassés dans les camps de la région. Ces deux initiatives illustrent les difficultés auxquelles font face les autorités kurdes qui ont proclamé en mars leur victoire contre le califat autoproclamé de l'État islamique. La correspondance d'Aurélien Colli.
Pour les autorités semi-autonomes kurdes, impossible d'assumer la charge des dizaines de milliers de civils pris dans la nasse qui s'est refermée sur l'État islamique et qui sont parqués aujourd'hui dans plusieurs camps de déplacés, dont celui d'Al-Hol, totalement saturé avec ses 75 000 personnes et des conditions sanitaires déplorables, abri de fortune sous un soleil de plomb, malnutrition des enfants, manque de soins médicaux. Après avoir renvoyé à Bagdad des centaines de familles irakiennes, les Kurdes commencent donc à renvoyer chez eux les Syriens, 800 femmes et enfants de Raqqa et et tabac pour ce premier convoi, mais d'autres suivront, même des proches de djihadistes, si la demande est faite avec des garanties par des chefs de tribus arabes ou des figures locales. C'est ce qu'assurent les autorités kurdes, elles qui continuent de réclamer le rapatriement des femmes et des enfants originaires de tous les pays étrangers. Ils sont 12 000 au camp d'Al-Hol. Sur cette question, les Occidentaux se divisent. La France procède au cas par cas. Elle a rapatrié quelques orphelins en mars, mais se montre globalement réticente sur le retour des affiliés à l'État islamique, hommes ou femmes. La semaine dernière, la Commission nationale des droits de l'homme a appelé le gouvernement à changer de politique et à rapatrier tous les enfants et leurs mères au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, au nom de l'obligation de protection de ses ressortissants.
Le régime de Bachar al-Assad a de nouveau bombardé la province d'Idleb. Aujourd'hui, 6 civils ont été tués. La Russie, qui aide militairement le régime syrien, affirme que son armée vise des terroristes dans cet ultime grand fief des djihadistes en Syrie. La France condamne ce soir la violente répression des manifestations au Soudan. Les forces soudanaises sont intervenues aujourd'hui pour disperser les manifestants qui campaient depuis des semaines dans le centre de Khartoum, devant le commandement général de l'armée et le ministère de la Défense. Des témoins disent avoir entendu des tirs et selon une association de médecins affiliés aux manifestants, il y a eu au moins 13 morts et plus de 120 blessés, Olivier Poujade.
Une épaisse fumée noire se dégage du campement établi par les manifestants depuis maintenant plusieurs semaines au centre de Khartoum, près du ministère de la Défense. Sur les premières images ayant pu être diffusées, on entend des cris, des rafales d'armes automatiques. Pourtant, le Conseil militaire de transition dément avoir engagé une opération pour disperser le sit-in par la force. La contestation affirme, elle, avoir coupé tout contact avec les forces armées et parle de moyens disproportionnés utilisés par les manifestants. Un porte-parole de l'ALC, l'Alliance pour la liberté et le changement, compare les lieux à un tas de cendres. Il n'y a plus rien, à l'exception des corps des martyrs qu'il serait impossible de récupérer. Le retour de la répression après l'éviction il y a quelques semaines d'Omar el-Béchir, le premier signal envoyé par le nouvel homme fort du Soudan, Abdel Fattah Burhan. Ce général d'armée s'est assuré ces derniers jours le soutien, notamment financier, de puissances régionales comme l'Égypte ou les Émirats Arabes Unis, avant de donner l'ordre à ses forces de sécurité hier de passer à l'action, une opération injustifiée selon l'ambassade américaine à Khartoum.
Le mouvement soudanais de contestation a donc coupé tout contact politique avec le Conseil militaire de transition au pouvoir et il appelle à la grève et à la désobéissance civile totale et indéfinie. Donald Trump est arrivé ce matin à Londres. La visite d'État du président américain doit durer 3 jours et le temps pourrait sembler long à Theresa May, que Donald Trump a déjà vivement critiqué pour son échec dans les négociations sur le Brexit. Aujourd'hui, Antoine Gignot, Donald Trump et son épouse ont été reçus dans le pur respect des traditions britanniques.
Et la plus célèbre de ces traditions, évidemment, Aurélie, c'est le tea time avec cette image étonnante, détonnante même, de Donald Trump venu prendre le thé chez le prince Charles. Un peu plus tôt, il y a eu distribution de cadeaux. La reine a offert au président américain une édition originale d'un livre de Winston Churchill, un ensemble de stylos et un coffret en argent pour Melania Trump. Le couple présidentiel a aussi fait un détour rapide par l'abbaye de Westminster. 30 minutes chrono, le temps de déposer un gerbe sur la tombe du soldat inconnu avec un déploiement impressionnant de forces de sécurité tout autour, des hélicoptères américains et anglais et des rues verrouillées par la police autour de Buckingham. On attend demain près de 250 000 manifestants. Certains ont déjà décidé de se rassembler ce soir pour protester contre la politique du président américain et ses dernières déclarations. Dans un message sur Twitter, Donald Trump a traité Sadiq Khan, le maire travailliste de Londres, de loser. Et cette visite continue sur fond de tensions, notamment à gauche. Jeremy Corbyn, le chef de file du Labour, était invité au banquet donné par la reine ce soir. Il n'ira pas plus que John Bercow, le président de la Chambre des communes, ni Vince Cable, le chef des libéraux-démocrates.
Antoine Gignot, en direct de Londres. Il s'appelait Semyon Rosenfeld, c'était le dernier survivant du camp d'extermination de Sobibor en Pologne occupée. Il est décédé aujourd'hui à 96 ans. Il avait participé à la révolte du 14 octobre 1943. Près de 300 prisonniers, dont le jeune Semyon Rosenfeld, avaient alors réussi à prendre la fuite en faisant une brèche dans les barbelés. Hommage lui est rendu à Jérusalem, Étienne Monin.
Dans l'une des réactions officielles en Israël, le président de l'agence juive souligne ce statut de héros malgré lui qu'a porté Semyon Rosenfeld après cette évasion désespérée. Avant son arrestation par les Allemands, le jeune homme vient d'Ukraine. Il appartient à l'armée russe. Il est blessé, interné dans le camp de Sobibor, épargné parce qu'il se fait passer pour un charpentier. Il comprend que ses chances de survie sont inexistantes. Dans le sillage d'un officier de l'armée rouge, il participe au plan d'évasion. Les armes viennent de son atelier. Ils attaquent des gardes avec des marteaux, des couteaux, des haches. 300 prisonniers passent les rangées de barbelés. Mais derrière, il y a un champ de mines dont ils ignoraient l'existence. Beaucoup sont tués aussi par les tirs depuis les miradors ou rattrapés dans la forêt qui jouxte le camp de concentration. Moins de 50 prisonniers vont survivre. Semyon Rosenfeld fait partie d'eux. C'est le seul groupe qui a survécu au camp de Sobibor. 250 000 juifs ont été exterminés entre avril 1942 et l'évasion qui a conduit à la fermeture du camp par les nazis.
Étienne Monin à Jérusalem. Demain mardi, le temps sera perturbé avec des averses orageuses, sauf pour les régions se situant du sud-est à l'Alsace-Lorraine qui profiteront d'un soleil généreux. Le matin, les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés sur un quart nord-ouest, 11 à 16 sur le reste du pays. Les maximales seront en hausse, 18 à 23 degrés des côtes de la Manche au littoral atlantique, jusqu'à 29 à 35 sur un quart nord-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.